la question à Mathias Houppé. Est-ce que vous êtes optimiste et confiant de voir cet ancien sportif gérer le pays?
Bon, disons que, étant donné son passé ne plaide pas nécessairement en sa faveur, de mon point de vue.
Pourquoi?
Parce que je vais exagérer ici en disant, nous sommes habitués, n'est-ce pas, à des hommes d'État qui ont fait des études de niveau élevé, à des hommes d'État qui ont travaillé dans des organisations internationales, un peu comme le profil de Johnson Sirleaf, donc la présidente sortante. Et je crois que Ouya ne présente pas ce profil. Et donc, de ce point de vue, moi, je crois qu'il part avec un handicap que je considère comme psychologique. Et donc, ces premiers actes qu'il va poser vont rassurer sur la confiance qu'on peut lui ajouter maintenant sur le fait que même si il n'a pas été à l'école comme les hommes politiques auxquels nous sommes habitués, s'il n'a pas travaillé dans de grandes organisations, il peut quand même s'entourer de gens capables de l'aider à gérer.
Alors s'entourer de bonnes personnes, on y reviendra. Est-ce que Jean-Claude Zamba, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Parce qu'il a fait quand même des études sur le tard. Est-ce que c'est forcément un handicap ou pas? Parce qu'on est habitué à des technocrates qui n'ont pas forcément réussi à mener à bien leur mission.
Bah, tout à fait. Nous avons pas mal de personnes qui ont des doctorats, qui ont passé un certain temps au gouvernement, mais les faits sont là, ils n'ont rien fait pour leur peuple. Le cas que je peux mentionner aujourd'hui est le cas du Gabon avec Ali Bongo, qui a un doctorat et qui a passé plus de 20 ans dans le système politique, député, mais aujourd'hui, le Gabonais moyen ne voit vraiment pas les répercussions de ces deux mandats. Nous avons également le cas, par exemple, de Lula da Silva, du Brésil, qui a commencé à apprendre à lire à 10 ans, il a commencé à travailler à 12 ans, 14 ans, est devenu l'un des 100 hommes les plus influents au monde et qui a amené le Brésil à une autre ère. Nous avons M. Martelly, le président Reagan en 81, qui était un ancien acteur, qui est devenu président. Je pense que la clé, ce sera les personnes avec lesquelles il va s'entourer et la confiance qu'il pourra donner à tous les bailleurs économiques et de la région et internationaux.
Gigliapi, est-ce que le gouvernement n'a pas voté finalement la rupture? Vous nous entendez, Gigliapi?
Allô, oui.
Bonsoir. On est en direct, vous venez de nous rejoindre. Est-ce que la population n'a pas voté la rupture?
Oui, je pense que la population a voulu faire un choix effectivement de rupture par rapport à une gouvernance, disons, plus traditionnelle, hein, en s'agissant de Ouya, qui est quelqu'un de très populaire. Il y a aussi une volonté de voir ce que ça peut donner en termes de résultats pour la population. Et je crois que l'élément important, avant la capacité à gouverner, c'est aussi la proximité avec les besoins et les réalités de population. Et c'est peut-être là qu'effectivement, je trouvais quand même un avantage avec la douce et qu'il a montré au cours des 20 dernières années un intérêt manifeste pour la situation dans ce pays, un intérêt manifeste pour la population et qui a cette forme de proximité qui n'ont pas nécessairement des anciens fonctionnaires internationaux et des technocrates. Donc ça, c'est un élément qui est positif, mais évidemment, il faudra en plus de ça une véritable capacité à gouverner, à avoir une méthodologie de réforme et également une méthodologie de choix des personnes avec qui il pourra, disons, fixer les priorités dans un pays qui est quand même très fragile institutionnellement.
Alors, très fragile institutionnellement, vous dites, quelle lecture vous faites, Ibrahim Kane, de cette victoire du choix de George Weah face à son adversaire, Joseph Boakai?
Mais je pense que c'est la victoire de la jeunesse face à une classe de politiciens maintenant qui doit aller se reposer. Et deuxièmement, c'est aussi la victoire de l'espoir, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas un passé lourd, qui affiche des ambitions énormes pour son pays. Et donc, on va voir dans quelle mesure il peut mettre en œuvre le projet qu'il a développé pour son pays. Et on verra dans la pratique ce qu'il va vraiment pouvoir faire. Une chose est d'être un bon footballeur, mais une autre chose est d'être vraiment un excellent politicien capable de répondre aux besoins des gens. Mais je vois aussi qu'il a le soutien de la population, qui est extrêmement jeune. Alors, pour moi, le grand défi pour lui, c'est de voir comment il peut aider cette population, non seulement à croire en elle-même, après tout ce que le Libéria a connu comme problème par le passé, mais commencer vraiment à leur donner les moyens qui leur permettront de se faire une place dans
alors
la société.
Alors les moyens, nous allons y revenir en deuxième partie. Je vous propose maintenant d'écouter James Buttie, l'envoyé spécial de VOA au Liberia. Il explique les raisons de l'échec du vice-président Boakai.
Il y a 15 subdivisions politiques au Liberia. George Weah en a remporté 14. La seule région remportée par le vice-président sortant était le département de Lofa. Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Comme je l'ai dit, les jeunes voient en Weah un symbole d'espoir, la matérialisation de leur espoir et ambition. Mais il y avait aussi cette implosion du parti au pouvoir. Il y avait au moins 3 divisions au sein du parti. Avec ce genre de situation, il était impossible pour le vice-président de remporter l'élection. Il y a plusieurs facteurs qui ont causé son échec, mais je pense que l'implosion du parti au pouvoir était le facteur principal.
Georges Yapi, les Libériens ont-ils voté pour le changement, la rupture, pour tourner également la page des années sans Liv Johnson, ou ont-ils voté pour la personne de George Weah?
C'est pour moi?
Oui.
Ok, d'accord. Non, je pense que ils ont voté en partie pour George Weah parce que par son parcours, je crois que, vous savez, la jeunesse libérienne a le sentiment aujourd'hui qu'elle n'est pas comprise par les technocrates qui ont géré le pays pendant les 12 dernières années. Et donc, ils ont le sentiment que quelqu'un qui vient, qui a le même background qu'eux, peut mieux les comprendre et aider à la recherche de solutions à leurs problèmes. Et donc, je pense que ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, il faut reconnaître que le pouvoir sortant a un héritage extrêmement mitigé. Et donc, étant frustré par les résultats, n'est-ce pas, de la gestion sur l'île, je crois que les Libériens, et surtout la jeunesse libérienne, avaient besoin d'une rupture. Et je suis d'accord que même si le parti au pouvoir était resté uni, ça aurait été très difficile. Il suffit de regarder les résultats des élections. Je crois que les jeunes Libériens voulaient vraiment de la rupture.
Jean-Claude Zamba, est-ce que la victoire de George Weah témoigne d'une certaine manière l'échec de Sirleaf Johnson? Quel bilan faites-vous de ces deux mandats, vous qui l'avez connu et vous l'avez rencontré personnellement?
Je pense que, en effet, il était important pour les Libériens de non seulement regarder l'histoire de ce qui s'est passé. Je pense que Sirleaf Johnson a très bien commencé. Elle suscitait beaucoup d'espoir, notamment au niveau des femmes, première femme élue démocratiquement au niveau d'un pays africain. Au niveau des institutions internationales, elle avait pas mal de support, surtout des États-Unis. Dans la région, la même chose au niveau de l'ECOWAS. Mais malheureusement, elle n'a pas pu juguler le problème de la corruption. Et même que beaucoup se sont rendus compte qu'elle en a participé, elle et sa famille. Et je pense qu'aujourd'hui, les Libériens voient plus un échec au niveau de Hélène Sirleaf Johnson et sa proximité au niveau de la population. Les populations se sont senties incomprises. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un comme George Weah peut en fait passer la main haute et gagner cette élection qui est pour nous vraiment un exemple de la démocratie en Afrique de l'Ouest.
Ibrahim Akam, est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, bon, on peut toujours parler d'échec de Sirleaf à cause de la corruption et autres, mais je pense que le mal est plus profond. N'oubliez pas que quand Sirleaf venait, on était juste à la fin de la guerre civile qui a complètement détruit ce pays. Et donc, il était vraiment difficile de remettre en marche une société qui était complètement disloquée. Je pense que ce que Sirleaf a essayé de faire, c'était de mettre en place les structures et elle y est arrivée difficilement parce qu'il y a eu aussi la crise de Ebola qui a montré à quel point cette société était complètement détruite. Pour moi, là où on peut vraiment parler d'échec de Sirleaf, c'est la réconciliation nationale. Parce que je pense que le travail qui avait été fait avant son arrivée au pouvoir, notamment le rapport qui a été produit pour vraiment aider à la réconciliation, elle s'est assise dessus. Et donc, je ne vois pas comment Weah pourrait vraiment commencer à faire un travail de fond pour régler les problèmes du pays si la réconciliation n'est pas vraiment réelle et approfondie. Pour moi, ça, c'est...
pour vous, c'est important.
Mathias
Soupé, dans son premier discours, le président élu promet d'améliorer le quotidien des Libériens. Ses critiques disent qu'il a offert peu de propositions politiques concrètes. Qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que ça a été toujours le reproche qu'on lui a fait depuis le départ, que ses promesses étaient relativement vagues. C'est vrai que ce discours seul n'aurait pas été suffisant de mon point de vue pour être clair dans ce qu'il va faire, mais ce qui est sûr, il est obligé de s'attaquer aux problèmes, aux difficultés auxquelles les Libériens sont confrontés aujourd'hui. Vous savez, le taux de pauvreté dans
le pays. Alors, toutes les difficultés, on va en parler en profondeur. On va tout de suite voir quelques réactions que nous avons eues sur notre page Facebook de téléspectateurs. Nous avons Barry Bobo qui est en Guinée. J'ai eu l'occasion de voir et entendre George Weah dans un mini-stade au Libéria. J'ai trouvé en lui un homme pas très balèze en politique, mais très sincère dans ses intentions. Son discours est illustratif. Il rappelle la diaspora libérienne et invite directement ses adversaires à participer au développement du pays. Esther Nouella, au Burundi, félicitations à George Weah, mais qu'il veille à la réalisation des promesses qu'il a faites à son pays, parce que l'Afrique en a marre des menteurs, des voleurs et des accros au pouvoir, et que son peuple aussi l'aide à bien faire son travail. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans quelques instants, juste après une courte pause.
De nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine au Libéria, malgré ses matières premières et la richesse de son sol, le Libéria fait partie des pays les plus pauvres du monde. Une grande partie de sa population vit dans des bidonvilles. Les attentes suscitées par l'élection de George Weah sont immenses, comme nous l'explique Salwa Jafari.
À West Point Beach, les habitants du bidonville le plus célèbre du Libéria s'entassent dans des baraques misérables au bord d'un océan qui dévore la plage peu à peu. Ils ont tous un désir commun, mettre un terme à leur lutte quotidienne contre la pauvreté.
Nous avons besoin de travail, ce qui n'est pas un travail, un gagne-pain, pour nourrir nos familles, pour avoir de la nourriture à manger.
Dans ce pays où 94% des travailleurs gagnent moins de 2 dollars par jour, la victoire de George Weah a été la bienvenue.
Pendant près de 12 ans, notre sœur Hélène Johnson Sirleaf et Joseph Boakai sont passés par là et n'ont rien fait. Mon mari a fait la guerre de 90. L'homme qui m'aidait est mort d'Ebola. Je dois me nourrir et nourrir mes enfants.
En 2016, le programme des Nations Unies pour le développement classait le Libéria à la 177e place des pays du monde sur 198 selon son indice de développement humain. L'espérance de vie ne dépasse pas 62 ans. Le manque d'infrastructures, notamment lié aux 14 ans de guerre civile qui ont dévasté le pays entre 1989 et 2003, fait partie des faiblesses structurelles de l'économie libérienne. À titre d'exemple, le Libéria compte l'un des taux d'électrification les plus bas au monde, avec moins de 2% de la population ayant accès à l'électricité à l'échelle nationale et un accès quasi inexistant en zone rurale. Après plusieurs années de forte croissance, un sommet à 15,7% en 2007, puis 8,1% par an en 2011 et 2013, l'économie du Libéria s'est effondrée entre 2014 et 2016, affectée par l'épidémie d'Ebola et la chute du prix des matières premières, minerais de fer et caoutchouc. Stimuler l'économie sera particulièrement important pour le nouveau président, car beaucoup de ses partisans, des jeunes, des sans-emploi, sont ceux qui ont le plus besoin d'opportunités.
Avec nous en direct de Dakar, Ibrahima Kane, directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Également à Dakar, Gilles Yapi, économiste et analyste politique. Nous avons aussi à Dakar Mathias Houppé, qui travaille donc pour l'Open Society Initiative for West Africa, et en plateau, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Ibrahima Kane, on l'a vu dans ce reportage, les défis pour Georges Weah sont nombreux. Par quoi faut-il commencer?
Honnêtement, je pense que le premier grand problème du Libéria, c'est le niveau d'éducation de la population. On peut vouloir créer des emplois, on peut vouloir donner, par exemple, une grande place à l'agriculture, comme Georges Weah l'a dit dans son programme. Mais si on n'a pas une population éduquée, on ne peut aller nulle part. Le niveau d'éducation de la population libérienne aujourd'hui est moins de 40%. C'est impossible de développer des programmes de développement dans ce contexte. Et si on y ajoute le fait que la quasi-totalité des personnes éduquées au niveau du Libéria ont quitté le pays, ont fui le pays pour diverses raisons. La dernière grande fuite a été à la suite de la fièvre Ebola. On peut donc considérer que la priorité des priorités est l'éducation. Éduquer la population.
Et cela... Gilles Yapi, est-ce que vous êtes du même avis?
Sur un fait, madame.
Oui.
Allez-y.
Je voulais juste insister
sur le fait que tout effort sur l'éducation aura des bénéfices dans 5-10 ans. Donc pour moi, dans l'immédiat, il sera vraiment très difficile pour Weah de trouver des solutions au problème de la population.
Alors Gilles Yapi, la gratuité de l'éducation est également une priorité, comme le souligne Georges Weah. Est-ce que vous êtes du même avis? La priorité, l'éducation?
Oui, d'abord c'est Gilles Yapi avec un P, même si voilà, j'aurais bien voulu être Yapi comme les Ivoiriens. Alors l'éducation, c'est une priorité. Mais l'éducation, c'est une priorité. Je crois que ce qu'il est important de dire, c'est de restituer le pays dans son histoire, dans sa trajectoire historique. Et cela permet d'éviter d'avoir des désillusions. Je crois qu'au moment de l'arrivée au pouvoir de Mme Sirleaf, il y avait beaucoup d'enthousiasme parce que c'est la première femme élue sur le continent, et on a bien vu que l'enthousiasme, il n'a pas duré très longtemps. Elle a réalisé des choses, mais évidemment, il y a encore énormément de défis. Et je crois que pour Georges Weah, c'est pareil. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais il faut tout de suite revenir à la réalité. Les fragilités sont structurelles, donc il y a un certain nombre de progrès qui ne peuvent simplement pas être faits à court terme, parce que il faut d'abord effectivement construire un système éducatif, construire un système de santé. On a vu avec la crise Ebola la fragilité du système de santé au Libéria. Et donc, ce qu'il faut reconstruire, à mon avis, ce n'est pas simplement un secteur, c'est reconstruire la capacité d'avoir des politiques publiques efficaces. Ça veut dire reconstruire ou construire l'État dans toutes ses dimensions. Et pour moi, la priorité, c'est bien sûr l'éducation en termes sectoriels, mais la priorité des priorités, c'est créer les conditions pour pouvoir répondre à tous les problèmes majeurs, et pour cela il faut des ressources humaines, il faut un État qui soit fonctionnel, qui soit structuré, et que les choix des personnes, que ce choix soit très bien fait, de manière à avoir les ressources les plus compétentes, mais aussi les plus intègres, parce qu'on a vu également qu'il ne suffit pas même de faire venir des gens de la diaspora vivant aux États-Unis. Des programmes ont été tentés dans ce sens, ils n'ont pas été très concluants, parce qu'il faut qu'il y ait un véritable attachement à l'État libérien, un attachement aux populations, et je crois que ce sentiment d'attachement, il est extrêmement important, et c'est peut-être là à nouveau quelque chose qui peut changer avec Georges Weah.
Alors on va poursuivre la conversation encore avec les autres intervenants, mais avant, je vous propose de voir quelques-unes des réactions de nos téléspectateurs recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Mamadou Sambasso en Guinée: Georges Weah incarne l'espoir du peuple libérien. Il ne pourra pas tout faire, mais sa jeunesse par rapport à certains dinosaures qui règnent sur le continent est un atout. Il fera mieux que Dan Johnson. Arnold Nlet: il sera difficile pour lui de faire mieux qu'Ellen Johnson, et ce serait une erreur de vouloir faire mieux qu'elle. Il était opposé à elle durant de nombreuses années, ce qui veut dire qu'il ne voyait pas les mêmes choses qu'elle, donc il doit rester lui-même, faire tout son possible pour mettre en place son programme. Jean-Claude Zemba, que pensez-vous de toutes ces comparaisons avec Hélène Sirleaf-Johnson?
Je pense qu'en effet, mais je pense que Georges Weah a pas mal d'atouts. Il est jeune et il a une certaine capacité à être pragmatique. Ce qu'il doit faire, c'est travailler sur l'union du peuple libérien. Mais en même temps, il ne pourra pas se focaliser sur juste un domaine. Il faudra qu'il travaille avec les bailleurs internationaux sur le plan de l'éducation, de l'agriculture. Il devra travailler avec tous les bailleurs qui ont fait des donations au niveau du Libéria. Le Libéria compte deux universités qui existent depuis les années 1800, 1862, 1889. Grandes universités qui pourront peut-être être transformées à un certain niveau ou une partie en formation professionnelle. L'agriculture, qui compte à peu près 70% de la population, doit être en même temps, on doit travailler dessus. Et je pense qu'il y a des formations de deux mois, d'une semaine, qui peuvent être mises en place pour former ce peuple-là. Au niveau de la population, la jeune population, elle compte à peu près 63% de la population est jeune. Et cette population, à peu près 3 800 000 ont accès au téléphone cellulaire.
On va y revenir, on va voilà. Demander l'avis à Mathias Houppé. Mm-hmm. Vous, quel est votre avis sur tout ça?
Je pense que tout ça est utile, mais pour moi, la priorité des priorités, c'est la lutte contre la corruption, quoi. Et comme il a dit lui-même dans son discours d'investiture, victoire, la lutte contre la corruption est la priorité des priorités. Parce que, comme tous les autres membres de ce panel l'ont dit, le Libéria a bénéficié de beaucoup d'appui sous Johnson Sirleaf. Et donc, quelles que soient les ressources qui seront investies dans le pays, si on ne contrôle pas jusqu'à un certain niveau la corruption, je crois que tout le reste sera perdu. Et donc, il faut contrôler la corruption et maintenant dégager des ressources et utiliser intelligemment ces ressources pour attaquer les défis auxquels le pays est confronté.
Lutter contre la corruption, est-ce que selon vous, Mathias Soupé, il est bien entouré, car c'est aussi un élément dont on parlait en première partie de l'émission?
Alors absolument, ça va être difficile, ça ne va pas être simple. Parce que dans nos pays africains, je vais exagérer complètement en disant que la corruption fait partie des éléments qui soudent les coalitions qui sont au pouvoir. Et donc lutter contre la corruption, c'est la première source de discorde au sein des coalitions qui gèrent le pays. Et donc ça va être très difficile pour lui, ça ne sera pas facile. Mais je ne crois pas qu'il s'est battu à ce point pour prendre la tête du Libéria parce qu'il cherchait à régler des problèmes faciles. Et donc c'est vraiment une obligation pour lui de trouver le moyen de réduire la corruption. Vous vous rappelez l'année dernière, il y a eu un scandale où le Parlement, les parlementaires prenaient de l'argent sur les investisseurs pour adopter, n'est-ce pas, des politiques fiscales favorables aux firmes étrangères contre les intérêts des citoyens libéraux. Donc je pense qu'il faut que des comportements de ce genre soient mieux contrôlés et que...
Ibrahim Akila, est-ce que vous êtes du même avis? La lutte contre la corruption est très importante.
La lutte contre la corruption partout en Afrique de l'Ouest est importante parce que les rares ressources que les États collectent par-ci, par-là doivent être utilisées à bon escient. Mais je trouve que dans le cas du Libéria, il y a quand même, au-delà de cette question de la corruption, comme je disais tout à l'heure Gilles Yabi, il faut s'attaquer à des problèmes structurels. Parce que tant que ces problèmes structurels ne seront pas résolus, regardez, le Libéria est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a pratiquement pas d'infrastructure. Vous-même, vous avez dit dans l'un de vos reportages que c'est le seul pays au monde où il n'y a pratiquement pas d'électricité. Donc, tant que ces questions-là ne feront pas l'objet
d'une
particulière, il sera vraiment difficile pour le pays de commencer à s'en sortir.
Merci
donc,
beaucoup.
Pour moi, oui, la corruption, mais il faut s'attaquer aux problèmes que l'on considère comme vraiment centraux pour que ce pays-là sorte de la situation.
Merci beaucoup. L'émission touche déjà à sa fin. Merci à tous nos invités. Merci à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Wolf TV qui diffuse Washington Forum à Dakar, au Sénégal.
La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer.
VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être.
Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts.
Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique.